Interview.
1 du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et sur www.rdwa.fr. Je suis en compagnie aujourd'hui de Marc Izoard, un des trois coordonnateurs de l'ADTE, l'association d'Iwaz pour la transition énergétique, qui porte, dans le cadre d'un collectif de 7 associations, le débat sur la transition énergétique. Un débat national qui est lancé par le gouvernement pour collecter les avis citoyens pour savoir comment faire pour accompagner le changement dans l'utilisation des énergies pour nous chauffer, nous déplacer et en fait faire tourner la boutique, quoi, hein, grosso modo. Monsieur Izoard, bonjour.
Bonjour.
Donc j'ai peut-être tout annoncé, mais rassurez-vous, il vous en reste à dire. Alors on pourrait peut-être préciser pourquoi vous avez fondé une association, l'ADTE, pour parler de transition énergétique.
Eh bien justement, parce que je voulais d'abord préciser qu'est-ce que c'est que la transition énergétique. Comme le nom « transition » l'indique, la transition c'est de passer d'un état, d'une situation à une autre situation. Aujourd'hui, la situation de l'énergie, c'est les énergies fossiles, fissiles, voilà, et on sait, tout le monde le sait, qu'il y en a pour 20-30 ans maximum. Le nucléaire, lui, énergie fissile, c'est très dangereux, on l'a vu à plusieurs reprises, donc il faut aussi l'abandonner. Le gaz de schiste, on l'a vu aussi, pose d'énormes problèmes de pollution et de détérioration de l'environnement. Donc, il faut s'orienter vers d'autres énergies, les énergies renouvelables, et on a tout ce qu'il faut en France pour cela.
Oui, alors je voulais vous complémenter, hein, j'ai lu un petit article il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est dans Le Monde, la semaine dernière. Il y a eu toute une série de séismes en Oklahoma suite à la fracturation hydraulique. Donc il y a effectivement beaucoup de choses à dire en mal sur le gaz de schiste. Donc l'ADTE, c'est une association que vous avez fondée il y a combien de temps en fait ?
Alors il y a 8 mois maintenant. Au mois d'août. Donc, suite à plusieurs chaînes humaines contre le nucléaire, nous avons décidé de créer une association pour les énergies renouvelables, pour nous lancer dans la transition énergétique. Et le débat énergétique sur la transition énergétique lancé par le gouvernement à l'automne et relayé par les régions tombe à pic pour nous lancer dans une opération un peu plus importante.
Alors, vous avez réussi à mobiliser un certain nombre de citoyens du DIWA sur ce projet.
Alors, oui, on a pas mal de personnes qui adhèrent à notre association, mais on est plusieurs associations du DIWA et des environs de Cré, Livron, parce que nous travaillons en parallèle avec le bas de la vallée de la Drôme. Donc, les associations sont l'ADTE, donc, vous l'avez dit, l'association d'Iwaz pour la transition énergétique, CTVD, collectif transition du Val-de-Drôme, Enercop, c'est une coopérative énergétique, écologie au quotidien, FAEP, ce qui veut dire famille à énergie positive, qui s'occupe plus de conseiller des économies d'énergie domestique à la maison, donc, GTD, un groupe transition du DIWA, et VDEC, c'est-à-dire Vallée de la Drôme Énergie Citoyenne. Voilà, toutes ces associations se sont rassemblées en un collectif pour faire un travail commun sur toute la Vallée de la Drôme, de Livron au DIWA.
Et pour répondre à un appel du gouvernement, hein,
et
sur
pour
la transition
répondre
énergie,
à l'appel
énergétique.
Du gouvernement, pour répondre à 5 questions qui nous sont posées, dont la première est obligatoire à débattre dans ces réunions. Comment aller vers l'efficacité énergétique et la sobriété? C'est la première question. Quelle trajectoire pour atteindre le mix énergétique en 2025? Quel choix en matière d'énergie renouvelable et de nouvelles technologies de l'énergie? et quelle stratégie de développement industriel et territorial? C'est la troisième question. Quel coût, quel bénéfice et quel financement de la transition énergétique? Et dernière question, quelle gouvernance et notamment quel est le rôle de l'État et des collectivités?
Qu'est-ce qui va se passer alors concrètement? Vous allez organiser des consultations publiques?
Alors, nous organisons donc 3 séances dans le DIWA et chaque séance va se dérouler à peu près de la façon suivante. Il y aura d'abord un petit accueil sympathique au début pour mettre un petit peu les gens dans l'ambiance. Après, il y aura un court film de 2 minutes et demie qui présente un tout, fait par la région, ce film, fait par la région Rhône-Alpes, qui présente un petit peu les enjeux et les enjeux du débat. Pourquoi un débat? Ensuite, on a inviter des professionnels, entre guillemets, c'est-à-dire des gens, des entrepreneurs qui travaillent déjà dans les énergies renouvelables et qui ont fait donc des expériences, des initiatives ou qui ont des projets bien ficelés, prêts à être mis en place. Donc ces personnes vont présenter très rapidement ce qu'ils ont fait pour montrer aux gens qu'il y a des possibilités dans le DIWA, qu'on peut faire des choses et qu'on a beau nous dire on ne peut pas faire autrement, si on peut faire autrement. Et après, donc, on va se partager en petits groupes, c'est un débat participatif, hein. Donc on va se partager en petits groupes. Chaque professionnel qui a exposé son initiative viendra dans un groupe différent. Il y aura un animateur de groupe et nous allons discuter par petits groupes donc d'un sujet précis qui tourne au départ autour de l'initiative du porteur de projet, mais qui pourra évidemment déborder et prendre un cadre plus large. Ça va durer une demi-heure, trois quarts d'heure. Ensuite, chaque groupe présentera aux autres l'état de la discussion. Il y aura une remise collective. Et voilà, puis après, il pourra y avoir des discussions informelles qui durent autant que l'on veut. Parce que le but, c'est de faire remonter quand même des propositions à la région et au gouvernement.
Donc ces fameuses 5 questions auxquelles vous devez répondre grâce à ces consultations publiques, donc ce sera des réponses précises à des questions précises.
Oui, alors la première, la sobriété et l'efficacité, c'est obligatoire. Bon, c'est celle qui concerne la majorité des personnes. Parmi les 4 autres, on peut en choisir uniquement une. On peut toutes les traiter, mais on peut en choisir une. Alors, ça dépendra évidemment du temps, de la motivation des gens, avec quelles idées ils viennent. Voilà. Mais on a prévu quand même un petit peu d'aborder toutes les questions.
Il y a des questions quand même qui sont assez techniques. Qu'est-ce qu'un citoyen peut connaître des coûts, des financements de la transition énergétique? Comment peut-on imaginer les financements de la transition énergétique à notre petit niveau?
Ce n'est pas une étude financière précise qu'on demande, c'est des idées de financement. Hein, voilà. Est-ce qu'on nous a demandé comment on finançait les centrales nucléaires? On ne nous l'a pas demandé. Donc, la majorité des gens, et moi pour le premier, je vais dire, stoppons les centrales nucléaires et tous les milliards que l'on met dans cette énergie polluante et vraiment dangereuse, mettons-les dans les énergies renouvelables. Tout simplement.
D'accord, et vous pensez que cette équation apparemment simple est faisable?
Tout à fait faisable.
Bon, il y a des études qui ont prouvé par exemple qu'il suffit de stopper d'investir dans les centrales pour investir dans les éoliennes et la biomasse et la géothermie pour que tout d'un coup tout se passe dans le meilleur des mondes.
Alors ce n'est pas tout à fait ça. D'abord on ne demande pas à ce que les centrales nucléaires soient arrêtées demain matin. On sait très bien que c'est impossible. Il nous faut quand même de l'électricité. Bon, il faut savoir quand même que l'électricité nucléaire en France ne représente pas toute l'électricité. Et puis, vous savez aussi que ces centrales nucléaires dépassent toutes, ou à deux ou trois exceptions près, 30 ans d'âge. Et que quand elles ont été construites, c'était le maximum. Or, on vient de dire, elles peuvent faire 10 ans de plus. Alors pourquoi il y a 30 ans, elles pouvaient faire 30 ans et maintenant, elles peuvent faire 40 ans. C'est tout un problème. Mais les arrêter progressivement en 5 ou 10 ans, c'est possible, mais à condition de mettre évidemment ce qu'il faut à côté. Et ce qu'il faut, c'est un mix énergétique, c'est-à-dire une variété d'énergies renouvelables, l'éolien, la biomasse, le solaire, le géothermique, la marée motrice. Voilà, il y en a des quantités.
Alors, quelles garanties avez-vous ? Bon, on va peut-être pas forcément, c'est pas aujourd'hui même qu'on va justement remplacer ce débat qui est salutaire. Comme vous le disiez, c'est pas tous les jours qu'on nous demande notre avis. Mais quelles garanties avez-vous que ces consultations citoyennes soient réellement prises en compte lorsque des décisions seront prises ?
Alors, on n'a aucune garantie qu'elles soient prises en compte. Mais déjà, notre voix sera entendue dans le sens premier du terme, hein, puisque... Jusqu'à maintenant, on ne nous l'avait pas demandé, là on nous la demande, même si on n'en tient pas compte, on l'aura exprimé. Et surtout, l'avantage que je vois, moi, c'est que ce débat va faire se rencontrer des personnes qui ne se seraient peut-être jamais rencontrées, dont certaines travaillent chacun de leur côté à des choses similaires, qui vont dans le même sens. Ça fera prendre conscience à certaines autres personnes que le problème existe et qu'on peut faire quelque chose. Voilà, ça sera une dynamique plus locale pour moi, ou à la limite régionale, plus que nationale. Mais si, cerise sur le gâteau, on nous écoutait un petit peu, ça serait aussi très bien.
Oui, parce qu'il y a eu quand même des efforts notables en matière de fiscalité ou de financement par le biais de tarifs aidés, certaines filières, je pense au photovoltaïque ou voire à l'éolien, qui en fait fut une époque, surtout le photovoltaïque, qui avait créé une bulle dans le solaire qui, quand elle a éclaté parce que ça devenait trop cher à financer, ça a mis un peu à mal toute une filière hein, qui est en ce moment bien chahutée. Qu'est-ce que vous envisagez, vous, hein, puisque vous êtes intéressé dans la question, je vous demande pas de répondre pour tout le monde, mais qu'est-ce que vous pensez? Comment pourrait-on aider cette transition énergétique au point de vue économique, quoi ? Parce que c'est ça aussi.
Alors, il faut que l'aide aille vraiment à ceux qui investissent dans les énergies renouvelables. Les aides qui ont eu lieu jusqu'à maintenant ont eu pour conséquence de faire monter les prix. Ce qui veut dire que, in fine, c'était le fournisseur qui recevait la subvention puisqu'il avait monté son prix du montant de la subvention. Donc c'est bien celui qui installait ou celui qui avait un panneau photovoltaïque sur son toit qui la recevait, mais comme il payait plus cher, il la rendait au fournisseur. Donc je crois qu'il faut trouver une solution pour ne pas tomber dans cet excès-là. Le fait que les subventions soient annulées ou fortement diminuées va automatiquement faire baisser les prix.
Non, ça veut dire que vous voudriez subventionner les fabricants chinois de panneaux photovoltaïques parce que, grosso modo, il n'y a plus qu'eux, quoi.
Oui, mais actuellement, c'est cela. Hein, puisque la subvention est versée à celui qui fait installer son panneau photovoltaïque sur son toit, mais comme le fournisseur a monté le prix d'autant, la subvention va aux fournisseurs chinois ou autres. Donc, voilà, il faut trouver un système qui aide vraiment celui qui installe, celui qui met un panneau photovoltaïque sur son toit. Comment ? Je n'en ai pas la solution.
Et sûrement des dispositifs fiscaux qui peuvent être adaptés à ce genre de situation. Mais c'est vrai qu'on parle aussi de niches fiscales un peu partout. Et donc, on serait amené à recréer des niches fiscales de type écologique, éventuellement. Bon, mais pourquoi pas, hein. Moi, je n'ai pas de réponse à la...
Oui, on n'a pas la réponse à tout. Il y a des personnes spécialistes.
Et il y a un débat qui est en cours.
Et il y a un débat en cours.
Alors oui, parce que je vois encore une autre question. Quelle gouvernance, quel rôle, notamment pour l'État et les collectivités? Mais alors, encore une fois, nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus?
Nous pensons que l'énergie doit être produite et consommée le plus localement possible pour éviter les transports d'énergie sous toutes les formes. tous ces camions qui roulent d'un côté à l'autre de la France pour apporter la même chose dans toutes les régions de France, c'est une ineptie. L'électricité nucléaire qui nous arrive de Flamanville ou d'ailleurs, c'est aussi une ineptie et ça coûte très très cher. Donc nous pensons que les énergies, puisqu'il y en aurait plusieurs, devraient être produites localement dans la vallée de la Drôme quand ce sera possible et avec les énergies possibles, mais au moins au niveau de chaque région pour limiter les transports. Vous savez, BioVallée a fait une étude sur les énergies. Les énergies dans la vallée de la Drôme nous coûtent 170 millions d'euros. Ces 170 millions d'euros sont payés à des gens extérieurs à la région, puisque l'électricité, le pétrole, alors mis à part les quelques fournisseurs de bois et transporteurs de fuel du coin, ces 170 millions partent ailleurs. S'il était possible d'utiliser l'hydroélectricité comme ça se fait à Luc ou ça va se faire à Romilly, c'est possible. On a le soleil, on a le vent, on a la géothermie. On peut essayer de garder, sinon les 170 millions, mais une partie importante de ces 170 millions sur notre territoire. Ça créerait, toujours d'après l'étude de BioVallée, 1000 emplois.
Rien que sur le territoire de la vallée de la Drôme.
Oui, sur le territoire de BioVallée, la vallée de la Drôme. Donc, 1000 emplois. Donc, ce n'est pas rien.
Au niveau national, ils attendent des résultats de cette consultation pour commencer à agir. Mais au niveau local, justement, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une émulsion qui se fait, en particulier grâce à BioVallée ?
Grâce à BioVallée, je ne sais pas très bien, mais il y a beaucoup d'actions individuelles ou de petits groupes qui se font. Je viens de vous parler de la microcentrale de Luc Andiouin. C'est la municipalité qui a mis ça en place. Il y a un projet sur Romilly. Il y a des chaufferies aussi à Vachères. Oui, il y a une chaufferie à Vachères. Voilà, il y a des tas d'exemples. Et puis, il y a des exemples plus individuels de panneaux solaires. Il y a une éolienne à Marignac. Il y a de la géothermie. Je connais deux ou trois maisons sur 10 qui se chauffent par géothermie. Voilà, il y a des possibilités. Mais alors pour revenir à la gouvernance, je parlais du niveau local. Donc le niveau local, c'est une force de proposition, si vous voulez, et d'initiative personnelle ou collective, mais en petits groupes. Au niveau régional et au niveau national, c'est plutôt pour coordonner tout ça. Et financer aussi, parce que c'est eux les financeurs de tout cela. Moi, je vois bien cette gouvernance-là. Au niveau national, donner des indications directives, financer. Au niveau régional, voir ce qu'il est possible de faire et conseiller plutôt telle énergie plutôt que telle autre, à tel endroit ou à tel autre. Et au niveau local, utiliser ces énergies locales, très locales quelquefois, comme à Romilly par exemple, pour se rendre autonome en énergie ou plus ou moins autonome en énergie.
Alors, mais vous savez que la France a quand même une tradition un peu technicienne qui aime bien les usines à gaz très complexes et redonner le pouvoir aux citoyens en leur permettant d'avoir chacun un petit brin d'éolienne sur leur toit, ce qui n'est pas dans l'air du temps, encore.
Je sais, la France est très centralisme, bien que la loi de décentralisation ait eu lieu. C'est un beau progrès, mais il y a encore beaucoup à faire. Oui, mais je vois mal comment, nationalement, on peut décider ce qui est bon pour le Diwa ou pour une autre région toute petite sans la connaître vraiment, quoi. Donc, c'est aux gens, aux locaux, à proposer d'utiliser des énergies à la région et nationalement aussi, mais la région et le gouvernement doivent écouter un petit peu ces propositions-là. C'est tout l'intérêt justement aussi du débat et du post-débat, parce qu'on ne va pas tout régler en une soirée.
Dans le débat de la transition énergétique, c'est marrant, on a parlé des sources d'énergie, mais on n'a pas trop parlé jusqu'à maintenant d'éviter d'en dépenser. Hein. Par exemple, tous les travaux d'isolation. Je suppose que si on a un massif travail d'isolation des bâtiments, on pourrait éviter un certain nombre de dépenses énergétiques.
C'est la première façon d'économiser de l'énergie et de réduire sa consommation, bien sûr.
Ça fera partie de l'objet de vos consultations.
Oui, il y a plusieurs professionnels, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ont fait isoler leur maison et qui travaillent dans l'isolation. Donc voilà. Donc on connaît, voilà, pour donner un exemple, on connaît une personne qui se chauffe tout l'hiver à 10 pour 130 euros.
Et une maison comment ça
veut... Une maison de 80 mètres carrés, elle n'est pas très très grande, mais c'est quand même une maison quand même d'importance. Ils sont 4 personnes à l'intérieur, le couple et deux enfants. Et voilà, 130 euros par hiver, c'est bien.
Pas cher.
Hein, c'est pas cher du tout. Mais la maison est très isolée, en bois à l'extérieur, watts de cellulose entre le mur et le bois de... Et le, comment on appelle ça, la double cloison, quoi, en bois. Voilà, il y a des solutions. Et il faut que, au niveau national et au niveau régional, on incite les gens à partir dans ces directions-là, financièrement, avec des subventions, voilà, fiscalement, voilà, susciter l'envie aux personnes de faire ça. Il existe une autre association, je l'ai citée tout à l'heure, c'est FAEP. Famille à énergie positive, oui. Alors, dans ce cadre-là, il n'est pas question. On peut le faire avant ou après, mais pendant l'opération FAEP, il est intéressant de ne pas faire de travaux parce que c'est comparer la consommation d'un hiver avec celle de l'hiver d'après. Donc, s'il y a eu des travaux entre, évidemment, ça modifie la comparaison. C'est sur les comportements à l'intérieur de sa maison. Il y a des choses toutes simples et qui économisent beaucoup d'énergie parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la principale économie d'énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Voilà, donc par exemple, mettre un rideau devant la porte d'entrée, c'est très efficace, nous l'avons testé. Remplacer les ampoules halogènes par des ampoules à basse consommation, voire des ampoules LED. Baisser la température de 1 degré parce qu'il y a des logements surchauffés. Nous, on a un logement à 18 degrés. Je peux vous dire que la maison est quand même un peu isolée, pas comme celle que j'ai citée tout à l'heure, mais elle est un peu isolée. Elle date de 30 ans. Alors, on a baissé la température à 18 degrés. On est tout à fait bien. Évidemment, on n'est pas en t-shirt dans la maison. Hein. Voilà. On a 100 éco-gestes que l'on peut faire dans sa maison, un petit livret. Donc voilà, et c'est l'ADIL 26 qui conseille ça, l'association dromoise d'information sur le logement.
Monsieur Bizoir, ces débats dont le gouvernement tiendra ou non compte, les citoyens pourront donc les suivre à 3 dates. Est-ce que nous pourrions un petit peu les rappeler ?
Alors ça sera le 5 avril, c'est-à-dire ce vendredi, à 20h à Châtillon-d'Yoye, à la salle de la mairie. Ça sera le lundi 15 avril à 20h toujours à la salle des Vaucances à Luc-en-Yoye. Et enfin la troisième, le 6 mai à 20h30 à Die, à la salle polyvalente.
Si vous aviez un appel à lancer donc au Yoye, ce serait de venir, je suppose.
Oui, alors j'invite fortement les Yoyeux, les Châtillonnais et les Lucquois à venir chacun à ces réunions. C'est très important. La transition, c'est maintenant. C'est très urgent puisque, vous le savez, les énergies fossiles, il n'y en a plus pour très très longtemps. Alors il faut penser à nos enfants et à nos petits-enfants et à toutes les générations futures pour qu'elles aient un environnement sain et des énergies propres.
Et si on pouvait rajouter un petit argument, c'est juste penser à notre porte-monnaie. Les énergies fossiles ne vont pas devenir moins chères dans le futur.
Elles seront effectivement de plus en plus chères. Mais l'argument du porte-monnaie n'est pas le principal argument. Mais ça peut influencer pour beaucoup de personnes, oui, effectivement.
Le fait de pouvoir dire qu'on chauffe pour 130 euros une maison de 4 personnes de 80 mètres carrés au sol, c'est un bon argument.
C'est un bon argument, oui.
Monsieur Izoard, merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Interview.